Bonjour.
Salut. C'est pas souvent que je vais parler dans une église, puis quand je dis bonjour, l'assemblée répond salut. Ça fait bizarre un peu. J'oublie que je suis à la maison. Merci pour cette louange très douce. Même la présidence est très douce. La douceur, c'est pas nécessairement mon don le plus développé, d'accord? Alors je vais faire de mon mieux pour continuer dans l'esprit avec lequel le culte a commencé. Mais c'est vrai que je ne suis pas toujours très doux, quoi. Hein, Qu'est-ce que tu dis? C'est pas grave. Non, de toute façon, c'est qui je suis, hein, vous ne m'en voudrez pas. Bon, avant de commencer mon message, petite nouvelle de James Genève, puisque il y a un mois de ça, nous avons déménagé à Genève à plein temps avec ma famille. Nous habitons maintenant Mérin. Nous n'habitons plus à Djembourtigny comme les 8 dernières années. Donc voilà une grosse différence pour nous. On a passé d'un village de 300 habitants à un building de 300 habitants. Donc on est encore en train de trouver nos marques et de comprendre ce qui nous arrive. Mais ça va, on est vivant. Dieu est fidèle, il est là et il prend bien soin de nous. Donc voilà, on est très encouragés. Même si on sait qu'on est dans une transition et puis que toute transition veut dire qu'on doit oublier ce qui aurait pu être, oublier ce qui était, et puis se projeter avec Dieu vers l'avant pour les nouvelles bénédictions qu'il a pour nous. En tant qu'équipe, à James Genève, on grandit, on a des staffs qui arrivent, on a Ingrid qui nous a rejoint des FJ qui travaille dans les finances, on a Eric, un Américain qui veut travailler avec la Bible, enseigner la Bible, Salomé qui travaille maintenant avec des prostituées, puis des enfants réfugiés. Donc voilà, on a plein de ministères qui démarrent. Nous, de plus en plus, on travaille avec les jeunes et les responsables de groupes de jeunes. On fait du coaching, du mentorat. Donc il y a plein de choses qui sont en train de bouger, de se mettre en place. Alors c'est petit, ça commence petit. On ne peut pas imaginer avoir un grand ministère sur toute la ville et les nations alors qu'on démarre quelque chose. Mais il y a plein de belles choses qui se passent. Vous avez d'ailleurs ici, elle ne l'a pas dit, mais un groupe de jeunesse en mission qui viennent de Burtigny. Donc c'est un petit peu l'équipe de louanges de Burtigny. Très content. J'ai découvert ça il n'y a pas très longtemps. Hein. Camille me dit, tu vas prêcher à l'église dimanche. Je dis, comment tu sais ça? Ben, je vais y jouer. Je dis, c'est super. Donc voilà, on est très content d'avoir une représentation de Jem aujourd'hui dans cette église. Ça va? Vous me suivez jusque-là? D'accord. J'aimerais prendre plusieurs passages aujourd'hui. Et puis j'aimerais parler, la plupart du temps je termine le message, je rentre à la maison et je reçois un message qui dit « C'est quoi le titre de ton message ?» Parce qu'on aimerait mettre un titre sur le message, l'enregistrement. Et donc j'y réfléchis encore. Mais j'appellerai ça « Jésus, la compassion et la transformation des nations ». Tout un programme. Hein. Donc voilà, je vais prendre plusieurs histoires où Jésus fait un petit peu des miracles, des choses particulières, et puis j'aimerais qu'on puisse aller plus profond et étudier ça ensemble. D'accord ? Donc le premier est dans Jean 5. Vous connaissez tous l'histoire de Jésus qui vient, et puis il y a la piscine de Bethesda. On va lire les quelques premiers versets. Après cela, il y eut une fête juive et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y eut une piscine qui s'appelait en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques, un grand nombre de malades étaient couchés, des aveugles, des boiteux, des paralysés. Ils attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et le premier qui descendait dans l'eau, après qu'elle ait été agitée, était guéri, quelle que soit sa maladie. Là se trouvait un homme infirme depuis 38 ans. Jésus le vit coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit « Veux-tu être guéri ?» Parce qu'il va dire oui. L'infirme lui répondit « Seigneur, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine quand l'eau est agitée et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton brancard et marche. » Aussitôt, cet homme fut guéri. Il prit son brancard et se mit à marcher. C'était le jour du sabbat. On sait ce qui se passe après, ça crée tout un remous dans le milieu des pharisiens. D'accord ? Ensuite, on aimerait passer à Jean 9. D'accord, les premiers versets. Jésus vit, en passant, un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui posèrent une question. Maître, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient révélées en lui. Il faut que je fasse tant qu'il fait jour les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha par terre, fit de la boue avec sa salive, puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, « Va te laver au bassin de Siloé, qui signifie envoyer. Il y a là, se lava, et était guéri. » Qu'est-ce qui se passe après? Tout un remous avec les pharisiens, et puis tout le blabla où les pharisiens enquêtent. Ça allait d'ailleurs très vite à cette époque. Hein. Ils étaient tout de suite sur le coup. D'accord? Et puis ensuite, j'aimerais qu'on puisse passer à Matthieu 15. Et puis là, on ne va pas prendre depuis le tout début. Enfin, on va lire un petit peu à différents endroits du chapitre. Au début, en fait. Alors, des pharisiens et des spécialistes de la loi vinrent de Jérusalem trouver Jésus et dire « Pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens? En effet, ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent le repas. » Il leur répondit « Et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition? En effet, Dieu a dit « Honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. » Voilà une confrontation directe avec les pharisiens. Un peu plus loin, on découvre que Jésus s'en va, parce que je pense que la discussion est devenue tellement tendue que Jésus s'est dit « Je vais me retirer un petit peu avant qu'il me fasse la peau. » Au verset 21, « Jésus partit de là et se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Alors une femme cananéenne qui venait de cette région lui cria « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David, ma fille est cruellement tourmentée par un démon. » Il ne lui répondit pas un mot. Ses disciples s'approchèrent et lui demandèrent « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Il répondit « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la communauté d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui et dit « Seigneur, secours-moi. » Il répondit « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux chiens. » « Oui, Seigneur, dit-elle, mais même les chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus lui dit, « Femme, ta foi est grande, sois traitée conformément à ton désir. » À partir de ce moment-là, la fille fut guérie. Alors, qu'est-ce que ces histoires, elles ont à voir les unes avec les autres? On découvre dans Jean 5 un Jésus qui vient guérir une personne, mais pas juste à n'importe quel moment. Il choisit le sabbat. Moi, je suis persuadé que Jésus avait toujours un moment particulier où il faisait plus que d'atteindre une personne. Je vais dire ça comme ça. J'ai l'impression qu'on cherche, dans le Jésus de l'école du dimanche, à atteindre le cœur des gens. Mais Jésus, lui, dans l'évangile, il atteint toujours le cœur des gens et la transformation de la société. Qu'est-ce qu'il dit vraiment? Pourquoi est-ce qu'il guérit cet homme qui a attendu 38 ans? Qu'est-ce qu'il expose à ce moment-là? Il expose un système dans lequel les pharisiens étaient au contrôle de tout et ne se préoccupaient plus de la personne pour qui elle était. Ils avaient perdu la vision que chaque personne est créée à l'image de Dieu, que chaque personne mérite la justice de Dieu. Et plutôt que d'essayer de créer un système où les premiers arrivés, on les aide à rentrer dans l'eau, eh bien ceux qui ne peuvent pas rentrer dans l'eau n'y rentrent jamais. Et donc Jésus expose un système, un fonctionnement de société qui est complètement injuste et égoïste. Et je crois que Jésus, dans sa compassion, a un cœur énorme pour cet homme. Ça fait 38 ans qu'il attend que quelqu'un l'aide. Et on est dans un système qui veut représenter qui est Dieu. Et qu'est-ce que ça veut dire pour ça aujourd'hui, pour nous? Je lisais dans un livre d'ailleurs, c'est une partie de cet enseignement aujourd'hui vient de ce livre de Vishal Mangalwadi, qui est un théologien indien, donc qui a grandi en Inde, et il dit c'est incroyable qu'il y a tellement de gens qui meurent en Inde et qu'on va prier pour les malades et que personne ne pense à aller leur apporter des médicaments. Rien contre la prière, au contraire. Mais Dieu veut aussi qu'on soit actif, qu'on soit juste. C'est un fonctionnement de société qui fait qu'il y a des gens dans des villages qui meurent parce qu'ils n'ont pas de médicaments et qu'il y a des gens dans des villes qui ne meurent pas parce qu'ils sont confortables. Et qu'est-ce que ça veut dire pour nous en tant que chrétiens aujourd'hui? J'aime bien cette idée d'aller prier. D'ailleurs, dans Matthieu 10, au début, on le sent, il appelle les disciples, et puis il leur donne le pouvoir de guérir les malades, de chasser les démons. Mais un petit peu plus tard, dans le chapitre, il dit, mais faites attention, car on va vous jeter dans les synagogues, on va vous fouetter, vous tuer, un frère délivrera son frère, les familles seront en désordre, je ne suis pas venu amener la paix, je suis venu amener la guerre, la mort. Mais ce n'est pas quand on va prier pour des malades et qu'ils sont guéris qu'on va se faire jeter dans les synagogues et crucifier. Moi, je n'ai jamais entendu parler d'une personne qui a prié pour quelqu'un, la personne était guérie, puis la personne guérie l'a prise, puis lui a dit, toi, tu sais quoi? Je te tue. Ça n'a pas de sens. Par contre, le moment où on commence à s'attaquer au système établi, parce qu'il est injuste, parce qu'il garde les gens dans l'esclavage, parce qu'il garde les gens misérables dans les systèmes injustes, on s'attaque à un statu quo qui est basé sur des idoles établies. L'idole de l'argent en Suisse fait qu'il y a beaucoup de pauvres. Et quand on parle de pauvres, on peut passer à la deuxième histoire que j'ai lue dans Jean 9. Est-ce que c'est lui qui a péché ou est-ce que c'est ses parents? Qu'est-ce que Jésus répond? Non, 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 c'est pour la gloire de Dieu. Vous ne comprenez pas, mes amis disciples. Mais tout comme vous, il a été créé pour la gloire de Dieu, à l'image de Dieu. Mais plutôt que d'essayer de trouver, de condamner qui est fautif, réfléchissez à ce que Dieu vous a dit. Parce qu'il y a une loi dans l'Ancien Testament qui dit qu'il n'y aurait pas de pauvres en Israël. Alors pourquoi est-ce que vous avez une personne qui est aveugle et qui mendie, alors que vous auriez dû, vous, en tant que société, prendre soin de ces gens qui souffrent? Et encore une fois, dans sa compassion, il prend soin d'une personne, mais il expose un système établi dans lequel les gens sont misérables, dans lequel celui qui est né aveugle n'a aucune chance de s'en sortir. Alors Jésus, il aurait pu faire très différemment que faire de la boue avec sa salive, cracher dans sa main, lui mettre sur les yeux. Mais en fait, Jésus, en faisant ça, faisait un travail pendant le sabbat. Volontairement, il a fait que la guérison ne vienne pas juste sur un claquement de doigts. Parce qu'il exposait l'injustice des chefs religieux de ce temps. Plus que ça, il les poussait à bout. Et plus vous lisez vers la fin, plus vous voyez qu'il y a des foules entières qui suivent Jésus parce que finalement quelqu'un se préoccupe de leurs problèmes. Mais aussi, plus les pharisiens se disent, celui-là, il faut vraiment qu'on le mette à mort, quoi. Donc Jésus construit une armée, une foule de gens pour qui il a eu compassion et qu'il a attiré derrière lui au travers de cette compassion l'amour pour l'individu, mais pour aussi que l'individu puisse sortir. Je suis venu libérer les captifs. Les captifs, ce n'est pas que le problème du trafic humain. Une personne qui était malade, n'avait plus le droit d'aller à la synagogue. Et donc du coup, il y avait aussi une extraction relationnelle pour la personne. Et le cœur de Jésus, ça a toujours été de faire des nations des disciples. Ça a toujours été de créer un mouvement de disciples qui, au travers de la compassion, peuvent devenir le sel, peuvent devenir la lumière, peuvent devenir la guérison des nations. Et Jésus, encore et encore et encore, a ce double agenda. Je m'occupe de toi, je me préoccupe de qui tu es. Mais je le fais parce que je veux exposer le mal établi. Matthieu 15. Relisons un petit bout. Alors une femme cananéenne qui venait de cette région lui cria « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David, ma fille est cruellement tourmentée par un démon. » Là, c'est déjà bizarre que Jésus ne réponde rien. C'est peut-être bien la première fois que quelqu'un vient en disant « Aide-moi !» Et puis Jésus, là... Qu'est-ce qui a bien pu se passer dans la tête des disciples qui sont avec lui à ce moment-là? Et qu'est-ce qui se passe avec les disciples? Renvoie-la, car elle crie derrière nous. Alors c'est une femme qui est non-juive. C'est une femme avec qui on ne se mélangeait pas. C'est une femme à qui on ne parlait pas. Alors, entre un Jésus qui ne dit rien et des disciples qui disent « Vas-y, dis-lui de partir, quoi. » On commence gentiment à sentir quelque chose qui se passe dans le cœur des gens. Il répondit, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la communauté d'Israël. » Donc là, je pense que si Jésus avait été pharisien, ses disciples l'auraient cru. Et pour eux, c'est bizarre. Parce que dans l'histoire, beaucoup plus tôt, il avait déjà parlé à une femme qui même s'est convertie et qui a probablement amené tout un réveil dans sa région. Vous vous souvenez, il a même demandé qu'elle lui serve de l'eau. C'était celui qui s'asseyait avec les parias, les collecteurs d'impôts. Et là, les disciples doivent se dire, « Ok, on sort d'un moment de tension difficile avec les pharisiens où tu les as clairement remis à l'ordre. Est-ce que tu ne serais pas en train d'essayer de faire un compromis pour qu'ils t'acceptent ? Je ne comprends plus rien. Qu'est-ce que tu es en train de faire ?» Mais elle vint se prosterner devant lui et dit, « Seigneur, secours-moi !» Il répondit, « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux chiens. » Est-ce que vous avez déjà réfléchi à cette phrase qui est extrêmement raciste? C'est une provocation énorme de la part de Jésus d'oser dire quelque chose comme ça. Et les disciples, là, ils doivent se dire, ouais, d'habitude, c'est plutôt nous qui le pensons, mais on fait ça plutôt en privé. Hein, que nous, on le dise, qu'eux le disent là-bas, ouais, mais toi, on est quand même étonné que tu viennes là aujourd'hui, je dois te dire. Pourquoi est-ce qu'il essaie de plaire aux pharisiens maintenant? Personne, même dans les pharisiens, oserait dire quelque chose comme ça. En fait, on n'oserait même pas lui parler. Mais la femme, elle, ne s'arrête pas là. « Oui, Seigneur, dit-elle, mais les chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » En fait, qu'est-ce qu'elle dit? Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, « C'est vrai, je ne mérite rien de ta part. Même les miettes, peut-être je ne les mérite pas. » Elle vient demander la grâce, en fait. Elle vient et elle dit, je sais qu'on a des problèmes. Je sais que je ne devrais pas faire ce que je fais. Je sais que je ne mérite rien de ta part. Que tout ce que j'ai, que je peux avoir de toi, c'est de la grâce. Est-ce qu'aujourd'hui, tu me donnerais ta grâce? Et là, Jésus lui dit, ta foi t'a sauvé. Qu'est-ce que Jésus y fait réellement dans ce texte? Pour que les disciples puissent devenir des disciples qui sont sel et lumière et qui sont la guérison des nations, Jésus devait détruire le racisme qui restait dans le cœur des disciples. Il exposait le racisme qui venait des pharisiens. Mais il exposait aussi le démon du racisme qui régnait par-dessus tout ce peuple. Il est venu pour unir les gens. Comment est-ce que les gens peuvent prier ensemble s'ils se détestent? Donc les disciples eux-mêmes, déjà, devaient sortir de cet esprit. Il exposait de nouveau un système établi dans lequel les gens étaient enfermés, misérables. Et on parle de turning, aller évangéliser. Est-ce qu'on est prêt à donner n'importe quelle parole à n'importe qui? puisqu'il défie les disciples dans ce dernier texte. Défions-nous les disciples, puisque c'est ce que nous sommes aujourd'hui. Est-ce que la personne bizarre assise à gauche, à droite, au cinéma, vous ennuie ? Une couleur différente, un homosexuel, une femme, un homme, quelque nation que ce soit. Moi, c'est marrant. Vous savez, j'ai grandi ici, à La Chaux-de-Fonds. On est arrivé dans les années 90. Et au Bois Noir, il y avait toute cette arrivée d'étrangers, en fait, qui venaient. Ben, déjà de la guerre des Balkans. Mais aussi, il y avait toute cette venue d'Espagnols, de Portugais, d'Italiens. Et il y avait une espèce de clash de culture qui était énorme. Et en fait, duquel, j'ai réalisé plus tard, j'en ai quand même pas mal souffert. Et donc, pour moi, l'idée d'une personne portugaise était négative. Et j'ai grandi, et puis on ne se rend pas compte, hein, mais à chaque fois qu'on rencontre un Portugais, on a du mal à se rapprocher, quoi, parce que j'ai grandi dans un temps où, en fait, je ne les aimais pas, quoi. Et puis un jour, directeur de Jeunesse et Ambition à Burtini, le responsable, un des responsables de GEM Portugal m'appelle, « Salut, tu veux pas venir ?» J'ai prié, j'ai senti que je devais y aller. Et puis je suis arrivé là-bas et j'ai découvert un peuple incroyable. Et j'ai vécu une réconciliation, en fait. Parce que j'ai compris que les gens qui venaient ici, ils étaient autant déphasés que moi. Autant dans l'incompréhension que notre famille qui débarque d'un village de 300 personnes à une maison de 300. Que la culture dans laquelle ils arrivaient ici, ben c'était ça, quoi. Ils n'avaient pas le choix. Ils devaient vivre cette transition de « je suis étranger, j'arrive ici en Suisse, c'est plein d'étrangers, comment est-ce qu'on vit ?» Et c'est le chaos des cultures. Est-ce que c'était leur faute ? Non. Par contre, j'ai rarement été autant bien accueilli qu'au Portugal. Et donc, je devais me sortir de ça. Et je crois que c'était vraiment un mouvement de Dieu. D'ailleurs, j'ai toujours une très bonne connexion où je retourne de temps en temps là-bas. Mais je devais sortir de cette pensée pour pouvoir être uni. Pour que Dieu puisse aussi m'utiliser dans la vie d'un Portugais. Et j'aime les Portugais. J'espère qu'il y en a ici. Il y en a ici ? Yeah. Il y en a un. Mais cette idée de racisme entre les Juifs, les Samaritains, elle est bien présente aujourd'hui. Vous savez quoi ? Elle est même présente entre églises. Où on n'aime pas peut-être les gens d'une autre église parce qu'ils pensent un peu différemment. Catholiques, protestants, évangéliques. Ah, je commence à chatouiller un peu plus. Et Dieu veut briser ça pour faire ce qu'il veut faire sur cette terre. Et que si, le jour, vous allez faire de l'évangélisation, vous n'avez pas mis ces choses-là en ordre, vous n'avez aucune influence. Dieu ne peut pas vous utiliser. Dieu est venu pour sauver la vie des gens, mais il est aussi venu pour la réconciliation des peuples. J'ai cet ami Edwin Phyllis, qui était responsable avant moi à Burtini, qui a un ministère qu'il appelle Nation to Nation, et donc il va dans différentes nations, et puis il crée des moments de louange où il invite le plus de nations possible à se joindre. C'est vraiment des temps de louange des nations, en fait. Et puis, dans les années 90, il en a fait un en Allemagne. Et puis, il y avait les drapeaux de toutes les nations représentées, mais pas l'Allemagne. Ils avaient honte. Honte du passé. Honte du mur. Ils avaient honte de plein de choses. On voit, regardez ce qu'on a fait aux nations. Comment est-ce qu'on peut être représenté ici? Et Edwin leur a dit non. Maintenant, il est temps de mettre vos drapeaux là-haut. Vous êtes créés à l'image de Dieu, vous aussi. Et il y a eu un énorme temps de réconciliation des nations pendant ce temps. Parce que les Allemands devaient prendre leur place dans le royaume de Dieu. Alors nous qui apprenons l'allemand à l'école, parfois, on a peut-être une mauvaise idée des Allemands aussi. Pour ceux d'entre nous qui l'ont appris, quoi. Je crois que Dieu veut toucher nos cœurs aujourd'hui. Parce que peut-être même alors que je parle, vous vous rendez compte qu'il y a des choses dans vos cœurs contre des gens en particulier, un groupe de gens en particulier, qui n'est pas juste, qui n'est pas au clair. C'est un système établi, construit. Et si on doit prendre notre croix tous les jours pour porter sa compassion, pour que des gens puissent être touchés. D'ailleurs, où est-ce que sa croix l'a amené? Elle lui a la mort. Hein. Pas parce qu'il sauvait des gens, parce qu'il il confrontait constamment un système établi. Je suis le roi des Juifs. Et regardez qui me suit. Et regardez ce que je fais à votre société. Si on veut faire ça, il faut qu'on mette les choses au clair avec Dieu et avec notre voisin. Aime ton Dieu, aime ton voisin. Toute la loi, c'est ça aujourd'hui. Est-ce qu'on aime notre voisin? Tous les voisins. Ou est-ce que celui du 8e, avec les trucs bizarres sur la porte, là? Ouais, mais j'aime mes voisins. Non, tu ne les aimes pas tous. Demandons à Dieu cet amour inconditionnel. Pour avoir travaillé dans le leadership pendant longtemps, je vous promets, Dieu nous envoie des gens qui ne sont pas évidents des fois. Et il y a des matins où on se lève tous les jours en disant, Seigneur, donne-moi un amour inconditionnel pour cette personne. Vivons ça pour nos voisins, les gens avec qui on travaille, les gens qu'on rencontre et qui parlent une langue différente. Seigneur, donne-moi un amour inconditionnel pour ces gens qui croient en toi, mais qui le vivent complètement différemment. Seigneur, donne-moi un amour inconditionnel pour les gens qui toquent à ma porte, les témoins de Jéhovah et les autres. Seigneur, donne-moi un amour inconditionnel pour cet homme qui ne sent pas bon à côté. Seigneur, apprends-moi à aimer. Apprends-moi à voir la richesse que tu as mis dans chaque personne. Apprends-moi à voir que chaque personne a été créée à ton image. Et utilise-moi comme outil qui sortira les gens de leur détresse, qui confrontera le mal établi de notre société. Seigneur, remplis-moi de ta compassion pour que j'aime mon voisin. Tous les voisins. Est-ce que c'est pas ça finalement être un disciple? Parce que cette idée d'aimer mon voisin touche tellement profond à qui on est. Tellement profond à nos construits, de là où on vient, notre passé. Alors je ne vous dis pas de vous taper dessus aujourd'hui, hein. Le but, c'est pas ça. Parce qu'on grandit, c'est un processus de vie. On se repent, on demande à Dieu l'amour et on avance. Et Dieu fait son travail dans nos vies. Et on lui permet de grandir. Afin que chaque personne qui est sur cette terre puisse un jour être devant Dieu et le louer. Est-ce qu'on est devenus des élites chrétiens? Ou est-ce que nous sommes des chrétiens qui réalisons qu'on est autant brisés que tous les autres, sauf qu'on a déjà demandé la grâce? Et on l'a reçue puisqu'on l'a demandé. Et qu'elle est gratuite. Notre thème à Mission Adventures l'été passé, c'était Kintsukuroi. Et en fait, Kintsukuroi, c'est un art japonais qui prend des vases qui sont brisés et qui les répare avec de l'or. Et en fait, le bol après avoir été réparé, est plus beau qu'avant d'avoir été cassé. Et ça, c'est les marques de nos vies. C'est Dieu qui nous prend, qui nous amène dans son atelier. Éphésiens 2:10. Qui guérit ces choses, qui travaille en nous, qui met de l'or. Et puis, ce qui était le plus brisé devient le plus beau. C'est sa grâce. Et c'est gratuit. Et moi, je crois que Dieu veut faire ça aussi à l'état des nations. Prions. Seigneur notre Dieu, que tu es grand, que tu es bon et que tu es fidèle envers nous, qui, malgré nos brisures, celles qu'on voit et celles dont on n'est peut-être même pas encore conscient, tu nous as choisis, appelés et choisis. Afin que nous soyons la guérison des nations. Seigneur, viens faire de nous le sel qui a du goût. Viens faire de nous la lumière qui brille. Seigneur, transforme-nous. Apprends-nous à aimer. Apprends-nous à porter ta guérison. Guide-nous pour qu'au travers de nous, tu puisses délivrer les esclaves. Aide-nous, Seigneur, apprends-nous à être tes mains, tes pieds, ta bouche, ton cœur. Saint-Esprit, je veux te demander ce matin que s'il y a des choses qui doivent être mises au clair, tu viennes et tu donnes des convictions. Seigneur, on veut dire non déjà au status quo qui est injuste dans nos vies à nous. Aide-nous, Seigneur, à mettre les choses au clair avec toi et avec notre voisin. Amen. J'ai une dernière pensée. Le sel, à l'époque de Jésus, était une monnaie d'échange. Qui était en fait la monnaie d'échange quand on allait acheter des esclaves. Et puis si un esclave n'était pas bon, alors son maître pouvait lui dire « Tu ne vaux pas le prix de ton sel. » Et donc moi je pense que quand Jésus il écrit ce petit mot par rapport au sel, « Vous êtes le sel de la terre », je crois qu'il veut que nous soyons la monnaie d'échange pour les gens qui sont esclaves sur cette terre. Et nous avons une valeur. Pour que le monde le connaisse, pour que chaque personne entende, pour une transformation de nos sociétés. Vivons le sel, acceptons d'être donnés en échange. Amen. Voilà. Merci. Soyez bénis.